de 400 euros pour un adolescent. Une allocation pour aider les familles modestes à payer cartables et fournitures.
C'est Brigitte Macron qui l'annonce en personne dans sa première interview accordée depuis son installation à l'Élysée. Il n'y aura pas de création d'un statut officiel de première dame en France, pas de loi. L'épouse d'Emmanuel Macron le dit dans cet entretien, apparaître demain dans le magazine Elle. Elle rejette d'ailleurs au passage le terme de première dame, mais elle confirme la mise en place d'une charte de transparence détaillant ses missions et les moyens dont elle disposera. Une solution qui ne vous a pas vraiment convaincu. Trissa Catrinei, bonjour.
Bonjour.
Fondatrice du projet Arcadie, un site internet qui s'intéresse de très près à la vie parlementaire, à l'activité des députés, des sénateurs, à la transparence en politique aussi. Déçue par l'abandon de cette idée d'un statut de première dame?
Oui, assez déçu en fait, parce que pour moi déjà, une charte, ça n'a pas une force juridique contraignante à la différence d'un statut. De la même manière, Madame Macron parle d'une charte qui sera adaptée à elle et à elle seule, mais pas d'un statut pérenne qui pourra valoir pour les futurs conjoints du chef de l'État à l'Élysée. Donc j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus fixe, de pérenne, avec également un contrôle de la Cour des comptes.
Alors avant de continuer, je vais juste vous demander d'enlever le petit casque qui est autour de votre cou pour pas qu'on ait d'écho et qu'on entende mieux le son. Vous pouvez le poser sur la table. Voilà, au moins on sera dans de bonnes conditions pour continuer. Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie de ne pas vouloir admettre que l'épouse du président occupe une place dans la vie, j'allais dire citoyenne, politique, dans la vie du pays tout simplement?
En fait, on observe en regardant l'histoire des différentes présidents en France, que au moins depuis la 4e République, qui a commencé avec Madame Michèle Auriol, l'épouse de Vincent Auriol, donc ce qu'on appelle les premières dames, ont toujours eu un rôle.
Alors dans le cas de Madame Auriol, par exemple.
Alors quand ils sont arrivés à l'Élysée, Monsieur et Madame Auriol souhaitaient instituer ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une présidence sociale de la République. Ce faisant, Vincent Auriol a alloué 1 million de francs sur sa dotation personnelle à Madame Auriol et lui a détaché un certain nombre de collaborateurs afin qu'elle puisse mener un certain nombre d'actions. Il faut également savoir que Madame Auriol avait elle-même une activité politique, si on peut dire ainsi, et qu'elle souhaitait continuer. À la différence de Madame Coty, par exemple, qui, elle, était extrêmement discrète, souhaitait rester vraiment inexistante, vraiment dans l'ombre. De son mari René Coty. Cela n'a pas été possible. Elle a reçu énormément de sollicitations. Elle a fait beaucoup de caritatifs. La seule nuance, c'est que si jamais il y avait des journalistes qui la suivaient quand elle allait dans les hospices, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, elle déplaçait le rendez-vous de façon à ne pas être suivie par les journalistes. Et quand elle est décédée en 1955, l'Élysée a reçu plusieurs millions de courriers pour exprimer des condoléances. C'est-à-dire que Madame Coty était extrêmement aimée de la population.
Donc il y a un impact qu'on ne peut pas nier de toute façon.
Il y a un impact qu'on peut pas nier, il y a des sollicitations qu'on ne peut pas nier. Est-ce qu'on accepterait que le conjoint du chef de l'État, par exemple, ne réponde pas aux courriers qu'il reçoit, ne se rende pas aux inaugurations, ne se rende pas aux événements culturels? Après, chacun des conjoints des présidents de la République sous la 4e et la 5e a eu sa marque. Donc chacune a fait à sa façon, avec son style et avec ses centres d'intérêt.
Et j'allais dire, on a tous en mémoire l'opération Pièce Jaune, par exemple, qui a été portée pendant des années par Bernadette Chirac.
Oui, mais on peut aussi se rappeler du Centre Pompidou qui a été faite par l'épouse de Georges Pompidou, puisque elle a introduit aussi l'art contemporain à l'Élysée. Elle, c'était vraiment l'art et la culture. Madame Chirac, ça a été plus des opérations caritatives. Mais Madame Mitterrand, elle a eu aussi un vrai rôle politique qui n'était peut-être pas prévu ainsi, d'après ce qu'on peut comprendre. Ça n'a pas forcément toujours
été... Ça a inspiré les écrivains et la littérature depuis.
Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre de faits qui montrent que les premières dames jouent un rôle. Il y a une présidence sociale. Il faut peut-être sortir de cette hypocrisie. Maintenant, il faut juste savoir combien ça coûte. C'est tout ce qu'on demande.
Pourquoi la charte qui est proposée, finalement, qui devrait être la solution retenue, n'est pas la bonne solution pour vous?
Parce qu'il n'y a pas de cadre pour l'avenir. Et ça, c'est un problème.
C'est pas durable,
c'est-à-dire que quand on changera de président, il faudra reconstruire une autre charte de la transparence. Alors que si on avait posé un statut, ça valait pour maintenant et ça valait pour l'avenir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est peut-être un peu vulgaire de le dire de cette façon-là, on ne sait pas combien coûte le conjoint du chef de l'État. Donc il y a des suppositions, les députés posent des questions.
A priori, ça sera intégré tout de même dans cette charte de transparence. Il est question, en tout cas selon Brigitte Macron, d'intégrer des chiffres précis sur les moyens dont elle disposera.
Ce sera déjà, c'est vrai que ce sera une évolution, puisque par exemple pour Madame Chirac, on n'a jamais su concrètement quels ont été les moyens mis à sa disposition. On a eu des chiffres pour Madame Bruni, on a eu des chiffres pour Madame Trierweiler, on les a pas eu pour Madame Chirac, on les a pas eu pour Madame Mitterrand, ni pour la deuxième famille Mitterrand d'ailleurs.
Un mot justement de quand même de cette question d'une loi de mettre dans le marbre vraiment un statut. Est-ce que ça n'aurait pas empêché une épouse ou un époux d'ailleurs, on verra à l'avenir, qui ne souhaitait pas avoir de rôle, presque de lui en imposer un?
Pas nécessairement, puisque les faits montrent que justement, si on reprend l'exemple de Madame Coty, elle ne souhaitait surtout pas avoir un rôle, elle l'a eu. Exemple moins connu, Yvonne de Gaulle. Qui c'était vraiment dans la même lignée que Madame Coty, ne souhaitait pas avoir un rôle politique, ne souhaitait pas apparaître, elle fuyait les journalistes, elle faisait la même chose que Madame Coty dès qu'elle faisait une inauguration ou qu'elle allait rendre une visite et qu'elle savait qu'il y avait des journalistes, elle la décalait ou elle l'annulait. Et pourtant, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'elle a joué un rôle dans les grâces présidentielles. C'est pas forcément très connu. Donc, elle a eu un rôle. Simplement, c'était pas un rôle visible. Donc, être chef de l'État, c'est pas une fonction ordinaire. Les conjoints, la famille est exposée. On attend, en tout cas c'est comme ça en France, on l'attend, c'est aussi comme ça dans d'autres pays. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être franchir le pas, il faut mettre la question sur la table. Le fait que ça soulève autant de questionnements, ça prouve bien que c'est pas une question innocente, sinon ça passerait tout seul.
Avec des clivages qui n'obéissent pas aux différences traditionnelles entre partis sur cette question.
C'est ça qui est assez marrant. En 2003, Arnaud Montebourg avait soulevé la question justement concernant Madame Chirac. Donc, la gauche, enfin le PS et une certaine partie du PS. René Dosière, qui est bien connu pour avoir traqué tout ce qui était dépenses publiques, les dépenses de l'Élysée, pareil, a plaidé pour un statut concernant le conjoint du chef de l'État. Plus proche de nous, Guillaume Larrivé, les Républicains, on va dire le côté plutôt conservateur d'ailleurs des Républicains, en 2013, a posé deux questions écrites sur les coûts engendrés par Madame Trierweiler, notamment dans le cadre des voyages officiels, où les conjoints sont sollicités. Il y a des règles concernant le protocole dont on ne peut pas se défaire et qui existent partout. Et il y a d'ailleurs des pays où si le chef de l'État n'est pas marié, le couple n'est pas autorisé à venir à deux. C'est seulement le chef de l'État qui vient. Je sais que, par exemple, au Japon, ils sont très pointilleux sur les questions de protocole, mais l'exemple qu'on connaît le mieux, c'est le Vatican, par exemple, où Nicolas Sarkozy n'a pas pu venir avec Carla Bruni parce que pas marié dans les règles de l'Église catholique. Donc, on a des règles de protocole, ça se passe partout, ça pose des vraies questions. Et c'est pas forcément un débat purement franco-français. En Roumanie, en 2015... le nouveau président de la République, Klaus Iohannis, a lui-même posé la question de savoir si on ne devait pas mettre les pieds dans le plat. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit la déclaration qu'il a faite à ce moment-là, et qu'on compare avec les propos d'Emmanuel Macron en 2007, on relève une certaine ressemblance dans le discours.
Finalement, ils pensent un peu la même chose. Ça sera le mot de la fin, Trissa Catrinei, fondatrice du projet Arcadie. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site internet s'ils s'intéressent justement au fonctionnement de la vie politique et parlementaire. Merci d'avoir été notre invité sur France Info.
Merci.